appeler une femme une femme.
Tabarnak, Denis.
C'est correct?
Gravel dans le retour. Un show d'extrême depuis des années. D'extrême centre.
À 16h42, Mathias, sur les routes.
Yes, je commence avec un incident sur Capitale direction ouest à hauteur de Première Avenue. C'est la voie de gauche qui est présentement partiellement bloquée, puis ça crée un ralentissement dans le secteur, bien sûr, qui remonte un peu après Bourg-Royal au moment où je vous parle. Également, Robert Bourassa en direction sud, à hauteur de Versant Nord. La voie de droite qui est bloquée, on a une panne présentement. Pour l'instant, ça circule bien pareil. Capitale direction ouest, gros ralentissement entre Pierre-Bertrand. Ça remonte jusqu'à Henri IV présentement. Capitale en direction ouest, ça se passe plutôt bien, là, juste un petit ralentissement à hauteur de Laurentienne. L'accès au pont, bien sûr, c'est difficile à cette heure-ci. Henri IV en direction sud, ça remonte présentement jusqu'à Charest. Même chose pour Duplessis qui remonte jusqu'à la 40. Charest direction est à hauteur de Robert Bourassa, légèrement au rouge. Henri IV direction sud à hauteur de Capitale, c'est un peu difficile également. Et je termine sur la rive sud, sur la 20. En direction ouest, ça se passe présentement entre, je dirais, Taniata, puis ça remonte jusqu'à Kennedy, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021.
Vous le lisez dans le Journal de Québec, vous le voyez à l'antenne de LCN TVA. Et si vous êtes à Montréal, dans le secteur, ben, il y a Cube Radio également. Francis Gosselin, docteur en économie. Docteur Gosselin, bonjour.
Bonjour, cher patient de l'économie.
Oui, je suis un patient qui est atteint d'une grave fièvre de la méconnaissance de l'économie. J'ai besoin de vos lanternes. D'abord, Francis, peut-être regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour nous autres dans la mise à jour économique du gouvernement Carney.
Ben oui, ça vient tout juste d'être déposé il y a quelques minutes, à moins d'une heure, là, par François-Philippe Champagne. Donc, écoute, je te dirais, bon, déjà, contexte, ça sera pas... depuis que M. Carney est au pouvoir, on a changé la date où on publie les budgets. Les budgets sont maintenant à l'automne. Mm-hmm. Donc là, on a au printemps une mise à jour. C'est-à-dire, c'est comme la mi-année, si vous voulez. Donc, c'est effectivement un exercice là, de mi-parcours pour le budget. Sachant, par contre, que ça fait un an que M. Carney est au pouvoir. Donc, tu sais, juste pour remettre les choses. Et donc, aujourd'hui, je te dirais que cet exercice-là, tu sais, contrairement à ce que Justin Trudeau nous avait habitué avec plein de nouvelles affaires qui coûtaient beaucoup d'argent, évidemment, à la Justin, il y a peu de grandes nouvelles orientations dans cette mise à jour économique-là. Ce qui fait que même, en fait, on apprend aujourd'hui que le déficit, qui devait être très élevé là, à 78 milliards et des pépettes, est en fait beaucoup moindre. Là, j'en ai parlé plus tôt.
Au lieu d'être très élevé, il est juste élevé, c'est ça?
Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une différence de 11 milliards, Véro. C'est une très bonne nouvelle. Ouais, ouais. Là, comme j'en ai parlé à LCN plutôt cette semaine, je dis, à mon avis, ça va être un 4-5 milliards de différence. Donc, tu sais, d'apprendre ça, là, 11 milliards, c'est, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça s'explique surtout par des revenus qui sont plus importants que prévu parce que l'économie, même si elle va pas super bien, va mieux que dans le scénario un peu pessimiste qu'on avait envisagé l'année dernière. Évidemment, toujours avec cette incertitude là, liée à Trump, les tarifs, tu sais, le chaos mondial là, qu'on vit actuellement.
Comment on a réussi à se rattraper? Comment on a réussi à faire en sorte que ce soit...
Les mesures,
ouais. Ou le scénario qu'on avait était juste trop alarmiste par rapport à la guerre des tarifs?
C'est plus ça, effectivement, Denis. Rappelons-nous, il y a un an, là, on venait de passer le jour de la libération. Là, c'était vraiment le bordel. Là, on ne savait pas s'il n'allait pas y avoir la fin du commerce avec les Américains. Alors que oui, il y a des industries qui ont mal, le bois d'œuvre notamment. Certains manufacturiers là, qui nous écoutent sûrement là, en Beauce, là, puis tu sais, dans la Chaudière-Appalaches, là, mais puis je veux pas minimiser ça, mais dans l'ensemble, l'économie canadienne a très bien résisté, que ce soit les secteurs de l'énergie, que ce soit même l'aluminium, tu sais, ultimement, ça a changé presque rien là, aux quantités qu'on exporte. C'est les Américains qui payent les tarifs finalement. Ouais. Fait que ça fait en sorte que, bref, notre économie n'a pas fait de croissance tellement, mais au moins elle a assez maintenu. Puis ça fait que ben, le gouvernement a des revenus additionnels. Il y a aussi des revenus là, des derniers deux mois, là, un peu liés à l'explosion du prix de l'énergie, là, du pétrole. vol notamment, mais ça, c'est un peu récent, fait que ça fait pas une grosse différence, mais à terme, ça pourrait avoir un impact aussi positif là, sur les comptes nationaux.
Francis, on a beaucoup parlé du fonds souverain dans les derniers jours. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de détails supplémentaires aujourd'hui, mais c'est quoi un fonds souverain? À quoi ça sert? C'est-tu juste une nouvelle bébelle qu'on essaie de faire trender? Ou, parce qu'on aime ça, hein, les nouvelles expressions, puis les nouvelles affaires, puis tout, je sais que ça a été fait ailleurs, mais peux-tu nous expliquer ça comme si tu me l'expliquais à moi-même, c'est-à-dire à un enfant de 5 ans?
Un fonds souverain, ce que c'est, puis c'est, je vais juste, oublions Carney là, un instant, là, oui. D'autres pays qui étaient aux prises avec des surplus budgétaires ou monétaires.
Des vrais de vrais surplus, là.
Des vrais surplus, là. Se sont demandé, qu'est-ce que je fais avec ça? Des très bons exemples, c'est les pays du Golfe, là, exportaient des quantités phénoménales de pétrole puis de gaz, puis on le voit là, depuis quelques semaines, quelques mois avec le détroit d'Ormuz, là, mais tu sais, eux, ils ont une business, grosso modo, c'est qu'ils exportent de l'énergie, puis tu sais, c'est des places, là, je veux dire, vous avez déjà vu le Dubaï, les Émirats Arabes Unis, tu sais, ils sont 22 là, dans une tour, tu sais, il y a rien, tu sais, il n'y a rien à dépenser, grosso modo, fait qu'il y avait comme d'immenses surplus dans leur cas de dollars US. Dans le cas norvégien, qui est le plus gros fonds souverain au monde, c'était des surplus liés aussi à l'énergie, liés à la royauté qui était perçue sur la production pétrolière. Ils se disaient, coudonc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, dans ces différents cas-là, Singapour est un autre exemple, ben, on a poulé cet argent-là dans un fonds. On lui a donné un conseil d'administration, on lui a donné une équipe d'investissement, un peu comme une caisse de dépôt, mais dans le fond, caisse de dépôt, tu as des déposants, tu sais, tu as le régime des rentes, tu as la RQAP. Alors que là, c'est vraiment, l'argent, là, il vient directement des royautés ou des surplus de l'État, il est mis dans ce fonds-là. Puis le fonds, dans le fond, ailleurs, à l'international, il investit à l'extérieur du pays. Donc, quand on entend que, par exemple, Dubaï, là, ils achètent des compagnies américaines ou ils financent Elon Musk.
C'est avec ça.
C'est avec ça. C'est un fonds d'investissement qui est comme un peu contrôlé par le gouvernement, mais pour faire du rendement dans d'autres pays en faisant des placements. Ce que M. Carney nous dit, c'est qu'on va faire un fonds souverain. Mais là, souverain de quoi? Avec quel surplus? Tu sais, moi, quand il a annoncé ça, plutôt cette semaine, je pensais qu'il allait imposer une nouvelle taxe sur l'essence. Pas sur l'essence, mais pas sur l'essence aux consommateurs, mais sur la production pétrolière. Okay, là, okay. Mettons, je ne sais pas, le 20 cents, le baril, là, tu sais, je dis n'importe quoi. Ça rentrerait dans un coffre, puis ultimement, on pourrait utiliser cet argent-là. On voit ça dans d'autres secteurs, soit dit en passant. Mettons, dans l'hôtellerie, là, tu pourrais imaginer tous les hôteliers de Québec qui disent « Hey, moi, je suis prêt à payer 1% de plus là, de taxes. » Tu sais, l'hôtelier, là, qui, pour avoir, je sais pas, pour rénover une infrastructure touristique majeure. Là,
qui attire plus de monde.
Pour m'assurer qu'il y ait du monde. Fait, je suis prêt, moi, à assumer une taxe de plus qui va être poulée de tous les hôteliers pour me donner une infrastructure touristique. Que c'est pas vrai qu'il y a un acteur privé qui va venir faire ça. Il faut mettre un petit peu... Fait que je pensais que c'était ça, le fonds souverain. Mais là, ce qu'on apprend, puis ce qu'on n'apprend pas vraiment, c'est que c'est 25 milliards qui va être mis au début. On sait pas d'où ça va venir. Est-ce que ça va venir du budget? Est-ce que ça va venir de la petite poche arrière de M. Carney? Puis là, il nous dit l'autre affaire, c'est qu'en fait, les gens, là, vous et moi, on va pouvoir mettre de l'argent là-dedans. Mais là,
on paye déjà des impôts.
Non, mais tu vas pas mettre de l'argent là-dedans comme tu mettrais dans un fonds mutuel ou comme tu mettrais en bourse pour générer des rendements. Mais là, quel rendement? Tu sais, je vais-tu avoir un siège sur le conseil d'administration, moi, pour décider? Tu sais, la démocratie, c'est une chose. Là, on vote aux 4 ans, mais si tu as un fonds d'investissement qui prenne mon argent, j'aimerais ça savoir, tu sais, comment il est alloué. Puis, c'est pas dit ça va être quoi la limite. Je veux dire, finalement, tu sais, c'est peut-être une affaire pour que 2-3 milliardaires canadiens poulent de l'argent là-dedans. Bénéficie du upside sur les projets fédéraux, puis que vous puis moi, tu on mène notre petit 100$ qui génère 4,5%, puis on est comme « Ouais, wow, c'est le fun, le fonds souverain », mais tu sais, on sait pas c'est quoi les règles, tu sais. S'il pourrait y avoir une limite, je sais pas, moi, de 1000$ ou de 10 000$, là, OK, tout le monde, entre guillemets, peut mettre une partie de son épargne de retraite là-dedans. Est-ce qu'on peut utiliser notre REER pour mettre de l'argent dans le fonds souverain, notre CELI? Pour l'instant, on a strictement aucun détail. Donc, c'est une bonne idée. Le nom est catchy, là, parce que justement, les Norvégiens ont bien fait ça.
Ouais, ouais.
Mais entre nous, ça n'a de souverain que le nom, cette patente à faire.
Mais j'aimerais qu'on parle un peu plus du cas norvégien, parce que on va s'entendre, là, les Émirats arabes unis, c'est un autre paire de manches, là, mais tu sais, en Norvège, est-ce que cet argent-là, d'une façon ou d'une autre, est retourné dans les poches des Norvégiens ou réinvesti concrètement?
En fait, leur modèle à eux, c'est comme notre Hydro-Québec ou notre SAQ, notre Loto-Québec. Eux, c'est un fonds d'investissement. Puis c'est dit, on va mettre de l'argent du oil and gas, là, du pétrole, là-dedans. Ils vont faire des investissements significatifs partout sur la planète dans des projets qui vont retourner un rendement, un peu comme notre caisse de dépôt, mettons. Puis il y a une partie de ça qui va être versée en dividende à l'État, donc qui va, dans le fond, enlever de la pression fiscale ou, considérez-le comme vous voulez, mais qui va nous permettre d'avoir plus de services à partir de rendements faits sur des investissements étrangers. Donc oui, il y a un bénéfice qui est... Puis ultimement, ils sont assis, eux, sur 2 000 milliards de dollars, ce qui, en soi, là, c'est la taille de toute l'économie canadienne là, qu'ils ont dans un fonds, là, quasiment un an de PIB canadien. Fait que c'est... Mais tu sais, eux, ça fait de nombreuses années là, qu'ils ont mis ça en place. Puis à chaque année, l'exploitation pétrolière rajoute de l'argent sur le top de la pile. Fait qu'ils deviennent un acteur de plus en plus influent. Ils peuvent jouer un petit peu dans toutes les plates-bandes. Ce qui donne un levier très intéressant en bon français, de soft power, parce que c'est pas juste l'argent. Après ça, c'est ben l'argent, ça vient avec... Tu sais, tu peux aller placer de l'argent dans tel pays, puis tu peux dire, hey, regarde comment je suis gentil, moi, le Norvégien, je t'ai donné 100 millions pour faire ton train, pour faire ton barrage. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est de la diplomatie financière, puis ça, les Norvégiens sont excellents à faire ça.
J'imagine aussi que ça amène une certaine pérennité puis une certaine prévisibilité. Tu sais, mettons que tu as une année de coup dur, peu importe. Tu sais, mettons il y a une crise économique mondiale, bien toi, ça va te permettre d'avoir une certaine protection contre ça quand tu as un fonds de même.
Ben puis c'est la principale critique qu'on pourrait faire à l'idée de M. Carney, c'est qu'en fait, lui... Puis on connaît la situation financière du Canada. T'sais. Les Norvégiens ont mis de l'argent petit à petit dans un petit cochon qui a grandi. Puis là, ils sont assis sur un très gros cochon. Puis comme tu dis, ça peut permettre d'atténuer les chocs puis les variations.
Ils ont été la fourmi de la cigale et la fourmi.
Ben oui, là, nous, on est déjà dans une logique de déficit important. Puis on dit, hey, on va comme emprunter 25 milliards pour partir notre patente, mais ça reste. Cet argent-là, on l'a pas. Là. À moins, comme je l'ai dit, qu'il y ait une nouvelle source de revenus qui m'a pas été ou qui nous a pas été communiquée, ça va être de l'argent qui va être emprunté à quelque part, soit au consommateur. Tu sais, comme je dis, on va peut-être pouvoir investir nous-mêmes. Là. Fait que ça se peut que cet emprunt-là se fasse de nous, là, c'est-à-dire qu'on de manière consciente et consentante, on met de l'argent là-dedans contre promesse d'un rendement, mais ça reste que ça va être de l'argent emprunté et pas de l'épargne à long terme.
On a beaucoup vanté les aptitudes financières de Mark Carney depuis un an. Est-ce que ça t'étonne qu'on n'ait pas plus de détails puis que ça reste encore occulte un peu la façon de procéder après un énoncé économique?
Ouais, moi, je ne suis pas de ces détracteurs à Mark Carney, je vous avouerai. Je pense, puis je dis pas ça par fidélité ou admiration libérale, je pense que Mark Carney est probablement un des premiers ministres les plus intelligents qu'on a eu genre de l'histoire du Canada.
Ah, oui.
J'ai l'impression que dans sa tête, le master plan est très clair.
Il n'y a pas d'improvisation.
OK, il n'a pas inventé ça 48 heures avant. Là,
non, puis je dis ça, comme je dis, je suis pas là en train de l'adouber et de me mettre à genoux. Non, là,
J'espère que tu as raison. On sent tellement d'improvisation de nos politiciens puis de nos gouvernements. Puis quand j'ai entendu parler de fonds souverains, Francis, je connais peut-être rien en économie, mais j'ai quand même vu neiger un peu en politique. Là. Puis dès qu'on a un nouveau terme à la mode, un nouveau buzzword, je me dis, bon, c'est quoi cette bebelle-là encore? T'sais?
Qu'est-ce qu'on essaie de détourner comme attention?
Écoute, j'aurais peut-être tort. Je pense quand même, puis là, tu sais, on va avoir les modalités là, tôt ou tard, parce que justement, s'il veut nous attirer, nous, comme épargnants, il va falloir qu'il nous dise c'est quoi le deal,
oui.
5%, 10%. Puis tu sais, honnêtement, si tu mets de l'argent dans un fonds d'investissement, là, les amis, là, moi, là, tu sais, nos placements, là, tu sais, passez vos REER, là, ça se peut que ça perde de l'argent, là, right? Comme ça se peut que ton fonds mutuel, ça se peut que ton action de Tesla, là, tu sais, tout peut arriver, je veux dire, c'est le principe. Là, ce que j'essaie de comprendre, c'est que maintenant, je place de l'argent dans le fonds souverain de Mark Carney, là, puis que ça se pète la gueule, puis que ça perd 10%, tu sais, c'est comme l'État qui va m'avoir comme un peu fourré de 10%, tu comprends? Non, mais c'est particulier, tu comprends? C'est assez sensible. Il garantit-tu le capital là, avec ça? Ça vient avec plein d'implications, mais Là, je vais en venir, puis pour terminer, mais je me dis comme si c'est moitié bien fait, puis qu'effectivement, on trouve une façon d'y mettre de l'argent, un peu comme le Fonds des générations, soit dit en passant, qui. Non, non, mais qui est une très bonne idée.
De base, comme, oui.
Non, non, mais puis comme toutes ces années plus tard, on est vraiment content de l'avoir, le Fonds des générations, parce qu'on poule de l'argent là-dedans, ça génère plus de rendement que l'inflation, puis ça nous permet de vivre un. Tu sais, dans le fond, le Fonds des générations, c'est un genre de fonds souverain, là, tu sais, qui n'est pas
avec
souverain.
Un autre, partout, avec un autre nom.
Ben, c'est ça, mais fait que je me dis, mettons, M. Carney qui lance ça cette année, là, vous me réinviterez dans une chronique dans 10 ans, là, puis on, tu sais, qu'on va être assis. Non, mais tu sais, qu'on va être assis sur 1000 milliards là, de cet héritage-là de Mark Carney, on va être content de l'avoir. Fait que comme je dis, je suis assez convaincu qu'il y a un master plan. Des fois, je me demande, tu sais, il a fait une vidéo là, il y a 10 jours, là, Forward Guidance, là, un peu comme un banquier, là, où il nous dit ce qui s'en vient. Mais tu sais, puis c'est ingrat la job de politicien parce qu'ultimement, je suis sûr que Mark Carney, s'il était dans une entreprise, il nous dirait le prochain trimestre, ça va être de même. Le prochain trimestre, ça va être de la merde, puis on va perdre 10% de nos clients. Non, mais tu sais, si tu es dans une entreprise, tu as l'obligation fiduciaire d'informer tes investisseurs. Ouais. Si le prochain trimestre de Netflix va être vraiment mauvais, quand le PDG de Netflix prend la parole, son forward guidance, c'est je vais perdre 10% de mes clients, puis dadaï, dadada. Monsieur Carney, il peut pas faire ça parce que, coudon, Donald Trump, il l'écoute, puis Jameson Greer, il l'écoute, puis tout le monde l'écoute. Fait qu'il dit, hey, les amis, ça va bien aller. T'sais, son forward guidance, il est comme un peu. Mais je suis sûr que derrière, il y a quand même une idée assez claire de ce qui s'en vient pour le Canada. Fait que je suis pas malheureux d'avoir ce banquier-là pour piloter l'économie canadienne.
J'en rêve déjà la chronique dans 10 ans où on va être assis sur un gros cochon. Là, je vais pouvoir te donner raison. Francis, merci beaucoup.
On va être beaucoup. Un méchoui, Denis Gamel. Oui. On va faire un méchoui.
L'argent puis de la bouffe pour tout le monde. Francis Gosselin, merci beaucoup.
Salut
Francis Gosselin, docteur en économie. Puis ben franchement, j'aimerais ça. Être dépourvu de cynisme puis croire en ces choses-là, mais si jamais on réussit à s'enrichir puis qu'il y a vraiment un master plan financier derrière la façade de Mark Carney, je suis le premier à être bien content de ça.
J'ai hâte de voir c'est quoi la mine qu'il a découvert. Là.
Ben oui, exact. Faut retourner dans la circulation, Mathias.
Oui, juste vous dire, il y a un accident qui s'est malheureusement rajouté puis qui crée beaucoup de problèmes. Là. C'est sur Capitale en direction est à hauteur de Pierre-Bertrand, la voie de gauche qui est présentement bloquée en raison d'un accident. Donc, c'est excessivement difficile là, présentement sur Capitale dans cette direction-là. C'est pare-choc à pare-choc entre Pierre-Bertrand jusqu'à Henri IV et ça remonte sur Robert Bourassa en direction nord justement pour prendre Capitale. Présentement, c'est jusqu'à Boulevard Charest environ qu'on sent un ralentissement.
Courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. 21 degrés à Québec. Gravel.